Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Merci pour votre fidélité. Nos débats sont riches encore une fois aujourd'hui et nos invités sont là, bien sûr. William T. Bonjour.
Bonjour
William.
Lionel.
C'est un plaisir de vous retrouver aux côtés de Pierre Lelouch. Bonjour Pierre Lelouch. Et Ludovine de la Rochère. Bonjour.
Bonjour Lionel. Ludovine.
Un point sur l'actualité d'abord pour commencer cette émission, comme à chaque fois, avec Clémence Barbier.
Gabriel Attal, favorable à une expérimentation du port de l'uniforme. Sur Europe 1, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a admis son souhait de laisser le choix aux établissements et aux parents d'élèves d'adopter une tenue commune. Il faut répondre aux enjeux de la laïcité à l'école sans attendre à l'uniforme de le faire, a-t-il ajouté. Une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. Selon des responsables locaux et des habitants, les femmes étaient en train de chercher de la nourriture lorsqu'elles se sont fait enlever. Depuis 2015, le pays est confronté aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Au moins 67 morts sur les 72 passagers à bord d'un avion qui s'est écrasé au centre du Népal. 15 ressortissants étrangers, dont un Français, étaient à bord de cet appareil de la compagnie Yeti Airlines. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies dans ce pays himalayen.
Et nos débats, donc, dans 90 minutes info week-end, des débats autour de la sécurité pour commencer, avec une augmentation récente des attaques au couteau dans la rue. Après la gare du Nord, cette fois c'est à Strasbourg, où un homme a été agressé avec un couteau de 20 cm. Plusieurs personnes dans la rue, dont une femme qui accompagnait ses enfants avant d'être maîtrisée par un policier hors service. Détail avec Amaury Bucaud de la rédaction de CNews.
Un homme a été interpellé hier 14 janvier. À Strasbourg, ça s'est passé vers 17h30. Le mis en cause s'en est pris à un premier passant dans la rue. Il a tenté de lui donner un coup de couteau dans le dos. Le passant a pu se réfugier dans sa voiture et appeler plus tard la police. 200 mètres plus loin, le mis en cause s'en est pris à nouveau à un autre passant. Il s'agissait d'une mère de famille accompagnée de ses 2 enfants en vélo. L'homme a tenté de lui voler son vélo, mais aussi de lui mettre plusieurs coups de couteau. Un policier hors service est finalement intervenu pour tenter d'interpeller l'agresseur présumé. Lui aussi a été blessé. Il s'est vu attribuer 45 jours d'ITT, notamment à cause d'une épaule démise. Et puis le mis en cause de son côté a finalement été interpellé par une patrouille de police. Durant le trajet jusqu'au commissariat, cet homme, il a tenu des propos en arabe. Il aurait récité des prières, hein, selon les policiers. Il aurait répété aussi « Allahu Akbar » et il aurait finalement dit au commissariat en français cette fois-ci « Vous irez tous en enfer à cause de ce que vous faites en Palestine ». Alors, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. C'est ce que nous indique une source policière. L'enquête a été confiée à la police judiciaire et le parquet que nous avons contacté pour l'instant ne souhaite pas communiquer.
Les détails donc de cette affaire avec Amaury Bucaud, on en parle avec nos invités en plateau dans quelques instants. Mais d'abord en duplex avec nous, François Bersani, porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être en direct avec nous. Il semble que cela soit en tout cas le même mode opératoire qu'à la gare du Nord. Avec un phénomène donc nouveau, François Bersani, très inquiétant, qui semble se répandre. Je parle des attaques au couteau dans la rue.
Oui, alors nouveau, là on a une conjonction de faits qui se répètent sur une semaine, mais vous avez déjà sur CNews relaté les augmentations régulières des violences faites aux personnes. On est sur un rythme chaque année de entre plus 8 et plus 12%. Et sur de nombreuses violences aux personnes, on a en effet l'usage d'armes blanches. C'est quand même l'arme la plus facile à avoir. Avoir des armes de poing, ça demande déjà un autre niveau de préparation. Et donc aujourd'hui, beaucoup en effet de citoyens ou de forces de l'ordre sont victimes de ces attaques au couteau, mais qui est l'arme que tout un chacun peut se procurer. On les retrouve aussi beaucoup sur les rixes devant les établissements scolaires. Vous avez aussi évoqué régulièrement des rixes devant des collèges ou des lycées, et à chaque fois, on avait des usages d'armes blanches.
Comment est-il possible de faire de la prévention, si tant est que ça le soit, d'ailleurs, François Bersani, parce qu'on a l'impression, avec en effet ces événements et ces incidents et ces actes et ces agressions rapprochées, on a l'impression que l'on peut être poignardé, agressé au couteau, au hasard, dans la rue, n'importe quand.
Alors, il y a plusieurs pistes, si on peut appeler ça de la prévention. La première prévention, déjà, ça, c'est de ne pas laisser sur la voie publique des individus qui sont soit recherchés, soit qui jouissent de troubles psychologiques déjà diagnostiqués depuis un bon paquet de temps et qui n'ont pas été traités parce qu'on a une paupérisation de la psychiatrie en France. La troisième solution, c'est on a eu beaucoup de faits avec des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire non exécutées. Donc, si déjà on retirait de la circulation tous ces profils qui n'ont rien à faire sur la voie publique et donc en état de liberté, ce serait déjà une forme de prévention. Après, la deuxième forme de prévention, c'est d'occuper la voie publique. Et pour occuper la voie publique, il faut du policier et il faut que ces policiers soient répartis de façon intelligente sur toutes les zones de France. Maintenant, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, je suis bien d'accord. Après, la prévention, ça passe aussi par le développement de l'intelligence artificielle, par exemple. Ça passe par augmenter la part de vidéoprotection dans l'espace public. Donc, il y a des solutions à bas prix, on va dire, mais il faut avoir le courage politique de les mettre en place.
Parce qu'il faut préciser, François Bersani, que dans cette nouvelle attaque au couteau, donc en celle de Strasbourg, encore une fois, cela aurait pu être beaucoup plus grave sans l'intervention d'un policier hors service qui passait par là, comme par hasard. Et c'était déjà le cas aussi parmi ceux qui sont intervenus à la gare du Nord.
Oui, aujourd'hui, les policiers qui font parfois l'objet d'un police bashing, surtout à gauche, voire à l'extrême gauche de l'échiquier politique, ou qui sont traités de factieux, de criminels, eh bien, jour après jour, ils démontrent que même une fois leur service terminé, ils sont encore là pour garder la paix. Hein. Ce sont des gardiens de la paix, sauf que la paix, eh bien, ils la gardent quand ils sont en service et ils aident à la maintenir également hors service. Et je fais aussi un clin d'œil aujourd'hui à nos politiques qui veulent faire travailler les policiers plus longtemps, puisqu'avec la réforme de la retraite, nous avons appris avec bonheur que nous allions travailler 2 ans de plus. J'ai par contre des craintes sur le fait qu'à 59, 60 ans ou 61 ans, nous soyons encore aussi préparés physiquement et prêts à intervenir sur des situations d'un danger réel. Donc je pense que ça doit faire réfléchir aujourd'hui les hommes et les femmes qui nous gouvernent. Est-ce que des policiers, est-ce que des pompiers vont devoir travailler plus longtemps? Et c'est pour ça que tous les syndicats de police seront dans la rue aussi le 19 janvier. Je profite de votre antenne pour relayer ce message politique.
Ouais. D'ailleurs, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a remercié ce policier qui est intervenu. Il le fait à chaque fois, mais il n'était pas en service, on le précise. Je vous garde encore un tout petit peu, François Bersani, parce que je voudrais vous faire réagir sur notamment les déclarations du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui explique que la délinquance a baissé depuis 6 mois dans la capitale. Mais d'abord, je fais un tour de table sur cette affaire de Strasbourg et sur l'insécurité prégnante dans les villes notamment. C'est l'impression que cela donne, Pierre Lelouch, avec les incidents qui sont rapportés, les agressions dont nous parlons très régulièrement sur cette chaîne, que les villes sont moins sûres, les espaces publics sont moins sûrs.
Oui, bien sûr, mais je crois que tout le monde ressent cela. Mais ce qui est problématique avec ce genre d'incident, d'abord, moi, je m'étonne que le parquet antiterroriste ne soit pas saisi dans une affaire comme celle-là.
Peut-être qu'il le sera.
Peut-être, oui, mais enfin bon.
Pour l'instant, les informations Nord, que nous avons données
du Nord,
restent à confirmer.
Ça n'a pas été le cas. C'est une attaque au couteau venant d'un étranger au QTF algérien ou libyen, voilà, on considère que c'est un fait divers, droit commun, ordinaire. C'est pas du droit commun. Moi, ça me rappelle ce que mes amis israéliens me disent sur la situation sécuritaire dans ce pays. Apparemment, l'auteur à Strasbourg a évoqué la Palestine, oui, etc. Il y a souvent ce genre d'attaque dans les rues en Israël de gens qui... Et c'est très difficile à prévenir, très difficile, parce que quelqu'un se réveille le matin et dit « je vais aller tuer un Israélien ou un policier ». C'est pareil, on ne sait pas qui... en général, il peut s'agir de personnes qui sont, comme on dit, des loups solitaires, qui ne sont pas branchés sur des cellules terroristes, mais qui sont complètement imbibés de cette propagande, qui un jour se lèvent et prennent une arme, une lame, et vont poignarder quelqu'un. Ça, c'est très difficile à faire. Par contre, ce qu'il faut, c'est la réactivité autour. Donc, comme le disait M. Barsani, c'est la vidéosurveillance, c'est des policiers qui peuvent être prêts à intervenir à tout moment. Et c'est bien de voir que dans cette deuxième affaire, on a des policiers qui passent par là, mais qui sont immédiatement réactifs. Tout ça, ça montre un niveau de, comment dire, de veille et de prise de conscience de la population qu'on est On n'est pas à l'abri du débordement de crises à l'extérieur sur notre sol. Donc ça veut dire plus de vidéosurveillance, des policiers qui sont armés hors du service, ça c'est ce que Darmanin a fait et c'est bien. Mais c'est une situation qui, si elle se poursuit, est difficile, va être difficile.
On a quand même l'impression.
Et je crois que ça relève de l'antiterrorisme, mais pas du tout du droit commun.
En tout cas, dans l'immédiat, quand il y a une agression, ça relève surtout, pardonnez-moi, Ludovine de la Rochère, de la roulette russe. Parce que si on se fait agresser au couteau par quelqu'un dans la rue ou à la gare en prenant son train et qu'il n'y a pas un policier hors service qui intervient, on se fait poignarder.
Vous avez raison, mais c'est on arrive à une situation de roulette russe, c'est tout à fait exact, mais parce que dans ce qui précède, on n'a pas pris les précautions nécessaires. On laisse se développer sur le territoire français l'idéologie islamiste. J'entendais M. Borsoni dire cet homme a probablement des troubles psychologiques. Non, ce n'est pas des troubles psychologiques comme on le prétend à chaque fois. Il est tombé, il est sous emprise de l'idéologie islamiste, quel que soit le canal, que ce soit les Frères musulmans ou un autre canal.
Ça reste à démontrer. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments, Ludovine de la Rochère, par rapport à ça. L'enquête, aujourd'hui, ne peut pas le démontrer, le déterminer.
D'après les propos qui sont rapportés, dans lesquels il disait « vous allez être
oui, et le lien à la Palestine. Mais c'est ce qui est dit à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire, parce que prononçons le mot, est-ce que c'est un attentat ? On ne peut pas le dire. Aujourd'hui.
En tout cas, ça y ressemble, vous avez tout à fait raison, cela ressemble bien à une attaque pour des origines, pour des raisons, pour des motifs islamistes. Malheureusement, cela se multiplie, et ce qui corrobore, ce qui va avec, en effet, la forme de l'attaque, qui est avec un couteau, et on le voit se répéter parce que nous laissons depuis des années, petit à petit, ces conflits, nous les voyons être importés sur le territoire français, et pour ma part, avec... Je fais le constat d'une grande faiblesse, c'est même pas de l'impuissance, avec une absence de volonté, de décision courageuse pour endiguer au maximum et pour ne pas laisser venir et s'installer sur le territoire français ces individus. Là, on est face à une vague migratoire illégale absolument massive que laisse faire la France, que laisse faire l'Europe. La France ayant donné tous les moyens de contrôler, ayant abandonné les moyens largement au profit de l'Europe, eh bien, est-ce que nos gouvernements réagissent, agissent, en font le constat, font le diagnostic, le reconnaissent ? Non. Ça n'est pas le cas.
Et c'est la population, effectivement, et les gens qui vont travailler ou qui se promènent dans la rue, comme cette femme avec ses enfants, qui en sont victimes. William T. dans un instant, mais d'abord, François Bersani, je vous fais réagir au propos de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, dans le JDD aujourd'hui. Il explique que la délinquance a baissé depuis 6 mois dans la capitale, notamment les vols avec violence. Est-ce qu'il y a un décalage avec la réalité ou est-ce que c'est ce que vous constatez, vous aussi, du côté policier ?
Alors il y a une mobilisation qui n'a rien à voir avec celle des années passées. Vous l'avez dit sur votre antenne précédemment, il y a des grands événements sportifs qui vont impacter positivement, bien sûr, la France avec la Coupe du Monde en 2023 de rugby et les Jeux Olympiques de 2024. Et le changement de préfet de police avec le départ de M. Lallemand et le remplacement par M. Nunez était aussi une volonté politique de donner un signal fort et de recentrer la police sur son cœur de métier, à savoir sécuriser l'espace public et les transports en commun qui seront le nerf de la guerre pour, alors d'abord pour le touriste de base, mais aussi pour attirer les spectateurs lors de ces événements mondiaux et éviter que la France soit encore jugée sur l'autel d'une incapacité à organiser des grands événements dans la sécurité. Donc ces résultats, ce sont des résultats en pourcentage. Il faudrait voir ce que ça représente en nombre de faits, parce que le nombre de faits est encore très très élevé. Alors oui, des baisses de 2% ou de 5%, mais ce serait intéressant de voir ce que ça représente en nombre de faits encore sur l'agglomération parisienne. Quant aux atteintes aux biens, les atteintes aux biens, ça fait plusieurs années qu'elles sont en baisse et que les crimes et délits se déportent vers les violences aux personnes. Donc ça n'est pas une nouveauté que les atteintes aux biens baissent en France en général.
Merci François Bersani, merci pour ces détails. Merci et à très bientôt sur l'antenne de CNews. William T., c'est vrai, les propos du préfet de Paris qui défend son bilan au terme de 6 mois sur Paris et sur l'Île-de-France aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a le trafic de crack à Aubervilliers, à Pantin, à l'est de Paris notamment, mais pas uniquement. Mais est-ce que ça ne crée pas un décalage par rapport à l'impression, la sensation qu'on peut avoir quand on suit un petit peu l'actualité et qu'on rapporte les faits divers comme celui de Strasbourg, par exemple?
Moi, je pense que ça montre que lorsque vous avez de la volonté politique, vous êtes en capacité de faire reculer la délinquance et l'insécurité lorsque vous mettez les moyens. Et je prends un exemple. Ce qu'on a montré notamment, c'est que l'État français était devenu obèse sur le plan social avec une augmentation continue des dépenses sociales. Et par contre, on avait faibli sur le plan régalien, c'est-à-dire qu'on avait baissé de façon continue les dépenses en matière de justice et de police. Et comme Emmanuel Macron a peur de son image internationale et du fait que le New York Times puisse éventuellement le critiquer, il met le paquet à Paris pour pas qu'il y ait des vidéos TikTok avec des étrangers montrant la saleté, l'indélinquance et l'insécurité à Paris, tout simplement. Donc ils ont augmenté les moyens de façon assez importante, comme l'a souligné François Bersani, à Paris, pour faire reculer la délinquance. Donc ça montre, par contre, par rapport au message qui est entendu, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation qui est très claire sur le fait que lorsque vous augmentez les moyens régaliens, bah, du coup, la délinquance et l'insécurité baissent. Et je pense que ça fait le sujet essentiel sur la question de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez réduire en risque zéro totalement? Non, parce que vous avez des tarés dans la société. Mais il faut comprendre la société dans laquelle on vit. On est une société qui est ultra-violente et aussi ultra-radicale. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous aviez un différend avec quelqu'un, vous l'insultiez, vous avez des échanges verbaux qui étaient très forts. Là, maintenant, les gens sortent tout de suite le couteau. Moi, ça m'est arrivé, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une station-service pour aider mes parents. Les gens montent très vite en termes d'intensité, de messages. Ils sortent tout de suite des armes blanches, etc., lorsqu'ils ont un différend, lorsqu'ils se battent entre eux, ce qui n'était pas le cas lorsque j'avais commencé. Donc, on voit l'évolution de cela. Et donc, du coup, si vous avez une évolution de la société, il faut réagir en conséquence pour faire en sorte de limiter le risque. Pour limiter le risque, il y a deux moyens. Il y a la question de la justice et la question de la police. Sur la question de la justice, si vous dites qu'il y a de plus en plus de tarés en France et que le seul moyen, c'est qu'ils commettent de récidives, c'est de les enfermer, les tarés, tout simplement. Et comme ça, vous évitez, en termes de prévention, le fait qu'il y ait de nouveaux tarés qui agissent. Et le deuxième point sur la question de la police, c'est que si vous voyez comment agissent les différents délinquants, ils se concentrent sur différents lieux spécifiques. C'est-à-dire que si vous agissez, vous concentrez les moyens en termes de sécurité pour éviter ce type d'agression, et en plus, ce sont les mêmes endroits où par quels les touristes se font racketter et se font voler, Gare du Nord, les stations de métro, etc., et les ponts qui sont sensibles, bah vous augmentez la présence policière
et les centres-villes,
et comme ça, vous protégez la population et vous limitez le risque.
Ludovine de la Rochère, dans un instant, juste pour peut-être apporter une contribution à votre propos, un autre exemple de la réalité en France, et notamment dans certains quartiers, ce sont les squats ou des incendies à répétition, comme dans une cité de Champigny-sur-Marne, en région parisienne où les locataires vivent un enfer. Des groupes de jeunes ont pris possession de parties communes. Ils fument, ils dealent également en dépit des patrouilles renforcées de la police nationale. Jeanne Concar et Fabrice Elsner.
Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, elles auraient pu être très graves. Si une des voisines n'était pas réveillée, on aurait pu mourir asphyxié. Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de montrer, si c'est des représailles, mais c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande est-ce qu'ils vont être là. Ils fument de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit coin de deal, mais ils y tiennent, ils ne veulent pas le perdre.
Depuis un an, dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur a su prendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
Le matin, je suis arrivé ici la semaine dernière. Toutes les vitres étaient éclatées. Parce qu'en fait, comme ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant, cette porte-là, elle est toujours ouverte maintenant. Elle ne referme plus. Même de l'extérieur, elle ne ferme plus.
Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
Des habitants qui veulent déménager, d'autres qui, à Marseille notamment, se mobilisent pour repousser les dealers dans les cités ou dans les résidences, Ludovine de la Rochère. Voilà, ça c'est un exemple aussi, au-delà des agressions dont on parlait tout à l'heure, du quotidien.
Un exemple du développement de l'incivilité, de la délinquance, de la criminalité, et qui prend toutes sortes de formes. Vous savez, je repensais à cette une de Libération il y a quelques jours qui disait... La peste brune déferle sur la France, c'est-à-dire que les flics, avant la demi-finale de la Coupe du Monde, avaient arrêté une trentaine de gamins qui sortaient d'un café, pas très loin des Champs-Élysées, tous ont été relaxés, mais il y avait le danger de la peste brune. Nous avons en France des accidents dramatiques, des parfois qui tournent au tragique, avec des tentatives d'assassinat ou des assassinats, comme à Strasbourg. Nous avons le développement du trafic de drogue, nous avons des incendies déclarés, etc. Mais là, une certaine presse, et je pense bien sûr à Libé, jamais ne vous dira montée déferlante, risque de violence lié à tel ou tel phénomène ou telle ou telle raison. Et au contraire, la NUPES, par exemple, est très anti-flic et elle est très pro-migration massive. Et en fait, c'est très frappant de voir le défaut d'analyse depuis des dizaines d'années d'une certaine gauche, pas dans l'ensemble de la gauche, d'une certaine gauche très idéologique qui n'est pas dans le réel et qui passe son temps à se tromper. Mais elle a une véritable influence politique et je pense qu'elle entraîne des erreurs d'analyse majeures et notamment de la part d'Emmanuel Macron et de ceux qui l'entourent. Les résultats dont se vante Laurent Nunez, en vérité, il a sorti deux chiffres qui sont sur les atteintes aux biens et les vols avec violence. Je voudrais bien voir tous les autres chiffres.
C'est ce que disait François Bersani, effectivement, on peut interpréter ces chiffres-là.
Il ne sort que deux données.
Je garde la réaction de Pierre Lelouch avant la pause, après le sujet que je vais vous proposer maintenant. Parce que c'est un exemple aussi patent, et ce n'est pas à Paris, pour le coup, ce n'est pas en région parisienne, de la réalité ou du quotidien aussi de certains Français, avec des parents et des enfants qui fréquentent des terrains de sport à Lyon. Dans le quartier de Gerland, non loin de l'ancien stade de football, ses parents sont en colère parce que depuis plusieurs mois, la prostitution s'est installée à ciel ouvert à proximité, mais la mairie écologiste refuse de les déloger. Reportage de Solène Boulan et d'Olivier Madinier.
Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre. Un haut lieu de la prostitution lyonnaise, situé à quelques mètres d'un terrain de jeu. Après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes, plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police, mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
Ils voient tous les jours des femmes nues, certains ont déjà vu des scènes de sexe camionnettes ouvertes. Il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça, il y a des voyeurs, il y a vraiment une ambiance qui est assez oppressante. Donc il y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont sur les terrains.
Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie.
On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées faire l'exercice dans des conditions qui sont inhumaines. C'est insalubre, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité, de courage, beaucoup de manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon.
Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
Un mur végétal ou un mur végétalisé en matière de cache-sexe, pour cacher le commerce du sexe.
Oui, c'est cohérent avec l'écologie.
Oui, il y a un lien de cause à effet,
moins,
en effet.
Ça l'est moins avec le combat féministe des écologistes. Les propos de Madame Rousseau, par exemple, pour défendre les femmes, les laisser un business pareil se développer sur un kilomètre de long en pleine ville, c'est juste insupportable. Bon, là, on vient de voir trois choses différentes en réalité. On vient de voir des agressions qui peuvent s'apparenter à de l'islamisme, en tout cas d'après ce qu'on commence à savoir de Lyon, et ce sera peut-être le cas. À Strasbourg et à Paris. On a vu un problème d'incendie dans les cages d'escalier, malheureusement, courant dans notre pays, mais ça, c'est plutôt lié au trafic de drogue, qui est un autre problème, mais qui est gigantesque, parce que la semaine dernière, par exemple, les statistiques de saisie de cocaïne dans des ports français, c'est 100 tonnes. 100 tonnes. La cocaïne arrive au Havre, elle arrive à Amsterdam, elle arrive à Anvers. Si on continue comme ça, il y a des pays qui vont devenir de véritables narco-États, côté de nous, la Hollande, la Belgique, faire très très attention à l'évolution que ça prend. Et puis ce dernier point, qui est, à mon avis, un problème qui n'est pas complètement insurmontable. Si la municipalité prend les arrêtés nécessaires, si on s'organise avec la police, ces camionnettes n'ont rien à faire sur la
police. Elles ne souhaitent pas le faire.
Surtout pas à côté d'installations sportives et scolaires.
C'est pour protéger les prostituées, en quelque sorte. C'est ce que dit la mairie, pour les protéger, justement, par respect pour le statut d'individu.
On entend des trucs invraisemblables de la part d'un certain nombre de gens élus sous les colères écologistes dans différentes communes. C'est assez étonnant ce qu'on entend à Bordeaux.
Vraiment deux mots parce que vous entendez le générique et on va faire la pause dans un instant.
Parce que l'extrême gauche est favorable au travail de ce qu'elle appelle le travail du sexe et qu'elle le défend auprès des instances de l'ONU, elle le défend auprès de l'Union européenne et elle aimerait le faire intégrer. Elle n'ose pas le dire explicitement en France.
Bah donc ça que peut-être porte. Avec le quartier de Gerland à Lyon. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants de nos débats 90 minutes Info Week-end. A tout de suite. Nos débats autour de la réforme de la retraite dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord les infos avec Clémence Barbier.
9 millions de foyers vont toucher demain une avance du fisc d'un montant moyen de 624 euros. Les concernés sont les réductions au crédit d'impôt relatif aux dons, l'emploi d'un salarié à domicile ou les frais de garde d'enfants. Les 221 000 foyers qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires au fisc recevront une lettre chèque dans leur boîte aux lettres. 6 départements du Grand Est sont en alerte rouge face aux allergies au pollen. La raison, des températures douces qui ont favorisé la floraison des arbres, notamment ceux des noisetiers, selon le réseau national de surveillance aérobiologique. Le reste de la France métropolitaine est en risque d'allergie de niveau moyen. Le bilan de la frappe russe sur un immeuble à Dnipro hier monte à 20 morts et 73 blessés. D'après la présidence ukrainienne, entre 100 et 200 personnes sont sans abri et quelques 1700 habitants étaient privés d'électricité et de chauffage. L'état d'urgence décrété à Lima, la capitale péruvienne, et dans d'autres régions, en raison des manifestations contre la présidente Dina Boluarte. Cette mesure entre en vigueur pour 30 jours. Ces protestations ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre dernier du président socialiste Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté de perpétrer un coup d'État.
Et nos débats sur le plateau de 90 minutes Info Week-end avec cette grève massive et intersectorielle jeudi prochain contre la réforme des retraites, les transports, l'essence, santé ou encore éducation. Tous les secteurs vont manifester à l'appel des syndicats. Comment les Français réagissent? Le reportage de Mathilde Couvillier-Flornois avec Charles Pousseau et Dorine Jarnias.
Les Français contre la réforme des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai pas envie qu'en manifestant, ils mettent en péril les autres.
Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Après, je comprends les gens qui descendent dans la rue pour manifester.
Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc je ne sais pas après si ça va donner des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je ne crois pas trop.
Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés, y compris les stations-service.
Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ils vont pas passer.
Ça me dérange beaucoup. Je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subie.
Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et appliquée.
Et les Français, malgré les désagréments que peuvent susciter ces manifestations, comprennent en tout cas cette grève et les manifestations, mais ils sont contre la réforme. Ça, c'est un sondage IFOP-JDD à 68%. Pierre Lelouch, contre cette réforme des retraites. Ça veut dire que c'est 7 Français sur 10 qui ne veulent pas de cette réforme et qui sont donc solidaires avec les manifestants.
C'est très difficile. François Mitterrand leur avait fait à l'époque un grand cadeau en 1980-82 en leur donnant 5 ans de vie supplémentaire, en passant de 65 à 60. Et depuis, on rame. Ça, la vérité. 10 ans après, Juppé avait essayé de faire la réforme des régimes spéciaux. C'est le gouvernement qui a cassé et ça a donné une dissolution. 10 ans après encore, c'était sous Sarkozy, nous avions, et moi j'étais au gouvernement à ce moment-là, nous avions 2 millions de personnes dans les rues chaque week-end, pendant 9 week-ends. Et là, on essaye le coup suivant. Il y a eu ensuite Marisol Touraine en 2003 avec l'allongement de durée de cotisation et cette fois-ci, une tentative à nouveau de passer à 64, 65. Il y a 10 ans, on devait passer à 63 ans. Sarkozy avait reculé à 62. Là, on était à 65, on redescend à 64. C'est très difficile à faire. C'est à la fois très technique et très difficile.
Comment on vit ça de l'intérieur, Pierre Lelouch ? Vous nous disiez que justement, quand il y avait eu des manifestations au sujet de cette réforme des retraites, vous étiez au gouvernement. De l'intérieur, il y a évidemment l'apparence, la communication du gouvernement, comme c'est le cas actuellement aujourd'hui, mais à l'intérieur, comment on le vit ? On serre les fesses ?
Avec résolution, mais avec, pour être franc, avec inquiétude. Un président de la République qui se souvenait et qui disait qu'en France, on a l'habitude de couper la tête des rois. Et je pense que M. Macron, il sait cela aussi et que ça l'inquiète. Le corps social est totalement imprévisible. Ils peuvent être résignés, comme disait le reportage, peut-être. Mais il peut y avoir une étincelle qui déclenche un mouvement de colère profond parce que, en réalité, dans cette affaire, ce sont les classes moyennes qui vont payer les artisans, les gens ceux qui bossent vraiment, qui vont payer le gros de l'affaire. Parce que les cadres supérieurs, les gens qui ont de l'argent, qui ont une vie confortable, même quand ils commencent à 25 ans après de longues études et qu'ils ont bien gagné leur vie, ça va bien, quoi. Là où c'est dur, c'est pour les classes moyennes qui doivent faire l'effort, souvent physique, de faire des métiers lourds en fin de parcours. C'est ça qui est difficile. Après, pour ceux qui commencent tôt, le problème est moitié résolu à cause de la durée de cotisation. Mais quand même, c'est un sujet sensible parce que la question que posent beaucoup de gens qui travaillent dur, c'est dans quel état je finis ma vie. Donc cette inquiétude, elle est humaine, il faut la comprendre. Mais en même temps, et c'est là que le gouvernement doit être très bon en pédagogie, il faut quand même dire ce qui se passe. C'est-à-dire que nous avons de moins en moins de gens au travail. Donc de moins en moins de gens qui vont être capables de payer la pension demain de ceux qui vont être retraités. Et que par conséquent, à mesure qu'on vit plus longtemps et qu'on a moins de monde, alors il faut changer les règles.
La réforme est nécessaire.
En 1945, quand la retraite a été mise en place, et c'était une retraite par répartition, très française, très socialiste quelque part, et pas du tout de la capitalisation, il y avait 3,5 travailleurs pour chaque retraité. Aujourd'hui, on est tombé à 1,5. Et dans 10-15 ans, on va tomber à 1 pour 1.
Voilà pourquoi la réforme est nécessaire, voilà pourquoi le gouvernement tente de communiquer là-dessus. Néanmoins...
Mais c'est dur quand même.
Oui, mais les chiffres sont là, surtout, Ludovine de la Rochelle. 7 Français sur 10, 68% des Français sont contre et 51% comprennent les manifestations. Et si historiquement, comme le disait Pierre Lelouch, les précédentes manifestations ont tordu le bras au gouvernement sur cette réforme, pourquoi ça n'arriverait pas cette année ?
Alors, c'est bien ce qu'ils espèrent, mais de ce que je comprends, une partie, en fait, estime qu'elle passera quand même. Mais presque 7 sur 10 sont opposés à la réforme des retraites, ils n'en ont pas envie. Mais il y a une autre question, est-ce qu'ils comprennent, parce que ça n'empêche pas de comprendre le dilemme, la difficulté...
La nécessité de la réforme.
Et donc la nécessité de la réforme. Cela explique peut-être qu'ils se disent que de toute façon, elle se fera, parce qu'il n'y a pas...
Là aussi, 7 sur 10.
Il n'y a pas le moyen de faire autrement. Et puis, il y a encore un autre aspect, moi, qui me frappe beaucoup et dont je n'entends guère parler, c'est le rapport au travail. Parce que c'est ça la question. On considère, et on a l'air de considérer, et c'est ce que considèrent en tout cas les syndicats, travailler 2 années de plus, on a l'impression que c'est un cauchemar absolu. Alors, la durée de vie, l'espérance de vie, elle a considérablement augmenté depuis la guerre. Maintenant, elle est à peu près stable, et il est même possible qu'elle recule légèrement, dans les mois, les années qui viennent. On a une période de retraite extrêmement longue. La vie professionnelle, elle est dure, elle est rude, j'allais dire dans tous les secteurs. Elle est rude physiquement, elle est rude psychologiquement, la concurrence, la rivalité, le stress, l'enjeu, la peur, tout ce qu'on voudra. Mais c'est aussi, les artisans aiment beaucoup leur métier, enfin en tout cas moi j'en ai rencontré beaucoup, entendu beaucoup, qui aiment beaucoup ce qu'ils font, dont ils sont fiers. Et puis ils apportent, je pense aux artisans, plombiers, électriciens, ils apportent beaucoup, leur métier est très nécessaire.
Mais au point de travailler plus longtemps ?
Non mais ce que je veux dire par là...
On peut aimer son métier, ça peut même être un sacerdoce, mais de là à travailler plus longtemps, si c'est pénible.
Est-ce que ça n'est que négatif ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... ont la chance d'être accomplis de leur activité professionnelle. Et en tout cas, je regrette qu'on ne le voit qu'en négatif. Je pense que ça n'est pas tout négatif et que négatif.
Alors, le point de vue de William T. dans un instant. Mais d'abord, réaction de Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui était invité du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos, ce matin, et qui ne part pas vaincu, malgré les chiffres.
Mais si je croyais que les batailles étaient perdues d'avance, je ferais autre chose que de la politique. Moi, je crois d'abord que la très grande majorité, si ce n'est la totalité des Français, sont attachés à un système par répartition. la solidarité intergénérationnelle, où vous avez les gens qui travaillent, qui financent la pension des retraités. Et c'est ce système qu'on veut préserver, sinon c'est la capitalisation à l'anglo-saxonne, où c'est le chacun pour soi. Je n'ai pas le souvenir d'une réforme des retraites qui se soit faite facilement. Évidemment qu'il faut aller discuter avec les Français, qu'il faut aller expliquer les choses, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi.
C'est vrai, tout le gouvernement d'ailleurs est là en ordre rangé pour expliquer, pour communiquer. Et c'est très bien, il faut faire de la pédagogie pour convaincre. Mais on a quand même le sentiment que l'avantage psychologique est du côté des syndicats et des manifestants au moment où l'on parle, William T.
Moi je trouve que le gouvernement joue très mal depuis le début. S'il voulait faire passer la réforme des retraites, il aurait fait en deux temps. La première partie sur un allongement de l'âge via le PLFSS, via 49.3 en décembre dernier, et ensuite après ils auraient fait la réforme des retraites portant sur le reste, les régimes spéciaux, etc., qui était beaucoup plus populaire. Et à partir du moment où vous avez un débat centré sur le report de l'âge, de toute façon vous êtes perdant quoi qu'il arrive. Dans toutes les enquêtes d'opinion, depuis que Mitterrand a fait le coup en 82, de toute façon les Français refusent tous les reports de l'âge.
Il n'a pas fait le coup, il a fait le cadeau.
Oui, de toute façon, vous êtes obligé de passer en force. Quoi qu'il arrive, vous passez en force. Et maintenant, c'est comment vous le vendez aux Français. Et moi, je pense que c'est là où il y a un point intéressant, et c'est ce que le gouvernement doit expliquer aux Français, c'est que les types qui vont manifester le 19 janvier, la France est un pays qui marche complètement sur la tête. Parce que pourquoi est-ce qu'on doit faire un report de l'âge de 62 à 64 ans? Parce qu'en fait, le régime général auquel 75%, 60% des salariés y sont, de toute façon, est équilibré pendant les 30 prochaines années. Les Français doivent travailler plus longtemps, donc la classe moyenne, qui est le tiers état, doit travailler plus longtemps pour payer en fait les retraites de ceux qui vont manifester le 19 janvier. Parce que le compte des fonctionnaires est déficitaire de 30 milliards d'euros, le compte des régimes spéciaux est déficitaire de 10 milliards d'euros, donc ça fait 40 milliards d'euros à récupérer. Et donc du coup, les gens qui vont manifester viennent de quel domaine ? La SNCF, la RATP, les régimes spéciaux de raffinerie et tous ces trucs-là. Et donc du coup, c'est double peine. C'est-à-dire qu'eux vont obtenir des aménagements sur leur réforme des retraites spécifiques parce qu'évidemment, le gouvernement va lâcher, encore une fois, parce qu'on connaît Emmanuel Macron depuis les Gilets jaunes. Vous foutez 5 types dans la rue avec 5 drapeaux, de toute façon, il lâche tout. Au bout d'un moment, au départ, il est très martial, il est très dur. Puis ensuite, à la fin, il lâche. C'est à peu près comme ça qu'il fonctionne. Et donc du coup, à la fin, qui va payer encore plus? Ça va être toujours les mêmes, la classe moyenne, les artisans, les salariés du privé, les caissiers, les cadres supérieurs qui vont devoir travailler encore plus longtemps et faire encore plus d'efforts pour que les gens qui vont manifester bénéficient de nouveaux avantages. Et donc c'est un système qui marche complètement sur la tête. Moi je pense qu'il faut le revoir complètement.
Les syndicats ne l'entendent pas, en tout cas ils ne veulent pas l'entendre, mais il y a une forme d'obstination en effet. Je vous fais réagir.
Non mais vous filez LVMH, qui est l'entreprise la plus rentable française, à un syndicat, ça devient déficitaire et vous avez tout le monde licencié au bout de 5 ans si par cas ces gens géraient cette affaire. Vous regardez toutes les affaires gérées par les syndicats. Toutes les lois qui sont passées depuis 1981, vous n'avez pas un seul exemple de loi économique ou sociale qui ont été améliorées par un syndicat. Vous n'avez pas une seule entreprise où ils ont manifesté, où ils ont bloqué l'entreprise, mais où l'entreprise en est mieux sortie après l'intervention des syndicats qu'avant l'intervention
syndicats. Dans ces manifestations,
leur faire confiance,
William T. de la réforme sur la retraite, c'est que les syndicats sont soudés. Ils sont ensemble. C'est le cas, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Philippe Martinez. C'est l'une des premières fois. En effet, c'est ce qu'a dit Philippe Martinez. Il l'a encore rappelé et précisé, sans expliquer, en effet, pourquoi il ne faudrait pas augmenter l'âge de départ à la retraite. Les syndicats sont très très liés et resteront fermes jusqu'au bout.
La déclaration commune, elle est claire. Pas de report de l'âge légal et pas d'augmentation de la durée des cotisations. Voilà, ça, c'est le ciment de cette unité syndicale. Et il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous.
Oui, mais ça, si vous c'est voulez, ça qui fait peur au gouvernement, Pierre Lelouch.
Ça, c'est le pire du syndicalisme à la française, si vous voulez. C'est là que notre pays a un vrai problème. C'est que la tradition de dialogue et de discussion en amont pour préparer la société à surmonter des choses que tout le monde connaît. La démographie de notre pays a changé. Le nombre d'enfants nés en France, immigration comprise, ne suffit pas à renouveler la population. Voilà. Quand le renouvellement, le taux de fécondité, c'est 1,7, 1,8, vous n'avez pas assez de travailleurs pour aller financer la retraite. Voilà. Donc il faut donc allonger la durée de cotisation, allonger la durée au travail. Deuxième élément que M. Martinez doit connaître aussi, c'est que les entreprises dans lesquelles les Français travaillent sont hors service public, sont bien souvent en concurrence avec le reste de l'Europe et du monde. Quand vous avez nos voisins qui sont à 65, 67, 68 ans, quand les Asiatiques travaillent jusqu'à 70 ans, on fait comment? On déménage sur la planète Mars? On continue à prêter de l'argent qu'on n'a pas? Donc il y a un moment où il faut atterrir dans le monde réel et le faire, si possible, en se parlant. Quand Martinez dit, moi, voilà, ma position, c'est là, on ne bouge pas, on va aller au blocage.
On reste à 62 ans.
Bon, ça, c'est quoi? C'est créer une sorte de situation de conflit ouvert, de guerre civile larvée entre les Français, avec ce discours qu'on vient d'entendre de William. Il n'a pas tort, mais l'idée d'opposer les privilégiés aux moins privilégiés, on n'en sortira pas. Le fond du sujet en France, c'est que nous avons choisi un système par répartition. Si on veut garder un système par répartition, il va falloir modifier les règles. Sinon, on passe en autre chose. Et moi, j'étais favorable depuis longtemps à ce qu'on ait au moins une part de capitalisation, parce que ça joue un rôle dans l'économie aussi. Quand vous pensez que tout ce que nous l'empruntons à des fonds de pension canadiens, japonais, asiatiques et autres, on marche sur la tête.
Pierre Lelouch,
autant avoir des fonds de pension français qui complètent les retraites insuffisantes.
Cette brillante explication pédagogique...
Si, c'est
brillant et c'est très clair. Mais les syndicats ne veulent pas l'entendre. Et voilà pourquoi ils sont aussi en train de gagner la guerre des nerfs médiatiques, parce qu'ils menacent de bloquer le pays. Et je vous cède la parole, Ludovine de la Rochard, dans un instant. Mais je vous prends pour exemple comment les syndicats se préparent à cette grande manifestation de jeudi avec... ce mot d'ordre, non à la réforme des retraites, pas d'explication supplémentaire, non à la réforme. On a pu suivre des militants de la CGT qui viennent de recevoir leur nouveau tract pour jeudi et qui vont donc les distribuer sur les marchés de Bordeaux. C'est un reportage d'Antoine Estève.
Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique jeudi prochain.
On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et certainement longue sur l'ensemble du territoire. Donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises.
J'attends une mobilisation record. En tout cas, on va s'y donner les moyens dans notre établissement et puis plus largement, je dirais, dans nos familles, dans nos amis. Tout le monde est concerné, donc ça va bien au-delà des actifs.
Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des Capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester.
On sait que 80%, 70-80% sont contre cette réforme. Ben, il faut que ça se voit parce qu'il faut que Mme Borne arrête de dire que c'est une bonne chose.
Aller à 64 ans faire à la chaîne, allez-y. Quand vous êtes dans la ferronnerie ou dans des métiers en chaleur ou autre, allez-y jusqu'à 64 ans.
Les arguments des militants font mouche. La plupart des passants sont interpellés.
On écoute ce qui se fait. Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche. Voilà, c'est tout. Et que ce soit un débat équilibré.
Je gagne très bien ma vie, je suis cadre. Ça va tout très bien pour moi. C'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous imaginez être sur Terre simplement pour travailler?
Les syndicats ont prévu d'être très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement.
Avec les politiques aussi, comme le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, qui demande qu'il y ait 1 million de personnes, il l'espère en tout cas, 1 million de personnes dans la rue, à déferler dans la rue. Les syndicats, les politiques, en tout cas ceux qui vont manifester, Ludovine de la Rochard, peuvent-ils paralyser la France ? Et pour longtemps.
C'est une possibilité. Moi, je suis impressionnée par votre reportage. Alors, il faut quand même souligner que c'est une personnalité, un élu communiste, qui nous appelle à manifester. C'est par ailleurs la CGT, celle qui a bloqué la France pour quelques dizaines de privilégiés des raffineries de pétrole, de privilégiés, je pèse mes mots, en termes de conditions de vie, de conditions de travail, de conditions de revenus salariés. Ils sont guidés par une idéologie d'extrême-gauche qui est celle qui bloque la France et les réformes de la France absolument nécessaires depuis des dizaines d'années et qui ont conduit la France... notre pays dans la situation actuelle. François Mitterrand, par démagogie, par gauchisme, avait fait descendre l'âge de la retraite à 60 ans. Nous le payons extrêmement cher et nous sommes combien d'années ? Plus de 40 ans plus tard et on est encore dans la même galère. Pendant ce temps-là, la natalité française s'est effondrée. Merci François Hollande et Emmanuel Macron prétend résoudre la question des retraites sans ne rien faire sur le plan de la politique familiale qui a été déconstruite à partir de 2015, qui est l'année où François Hollande a pris le maximum de mesures allant à l'encontre de la politique familiale et donc de la natalité. La natalité s'est effondrée et il faut impérativement agir sur ce sujet-là. Par ailleurs, pour revenir au syndicat, que propose-t-il ? Quelle solution propose-t-il ? C'est quand même extraordinaire de dire non Et peu importe la manière dont on devrait faire, ils sont pas tout à fait dans le réel. Et de toute façon, pour eux, l'argent est magique. D'ailleurs, François Hollande disait, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. On retrouve, c'est atterrant, toutes ces erreurs successives, les unes après les autres, sur les questions de police et de justice et sur les questions de retraite et d'économie. Eh bien, nous sommes toujours face aux mêmes erreurs. C'est atterrant. Oui. Et on voit le résultat aujourd'hui. J'espère que les Français, je comprends l'opposition à la réforme, j'ai pas forcément absolument moi non plus envie de travailler extrêmement tard, je l'entends, mais je pense qu'il vaut mieux essayer de rendre sa vie professionnelle aussi positive et intéressante que possible, dans la mesure du possible, et il faut acter la réalité.
Il y a une nécessité de toute manière, ça on l'a bien compris, mais ça les syndicats et puis les politiques, l'opposition en tout cas, ne veut pas l'entendre, William Day, parce que ce n'est pas qu'un combat social dont on est en train de parler, c'est aussi un combat politique, il y a une volonté de leadership aussi, de prendre le pouvoir.
C'est même un combat de société sur comment on conçoit notre rapport avec le travail, etc. Je pense que ça permet de poser pas mal de sujets. La question que vous posez avec les retraites, c'est est-ce que le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, donne le droit de bloquer le pays et d'emmerder 66 millions de Français. C'est ça le sujet essentiel. C'est-à-dire que quand vous pouvez bloquer le pays, c'est-à-dire que vous avez les salariés de la SNCF, de la RATP et des raffineries qui peuvent bloquer, en gros, en cumulé 50 000 employés, qui peuvent bloquer 66 millions de salariés. Est-ce que vous trouvez que c'est juste que 50 000 personnes aient le droit de décider de la vie de 66 millions de personnes ? Ils ont été élus par qui, les gens de la SNCF ? Ils ont été élus par qui, les gens de la RATP ? Ils ont été élus par qui, les gens des raffineries ? Et je pense que ça pose un point essentiel que vous avez affronté en 2010, qui est l'encadrement du droit de grève et qui pose deux questions essentielles. Un, l'organisation d'un service minimum beaucoup plus poussé pour nous permettre et permettre aux Français de circuler, parce que si les gens ont le droit de faire le droit de grève, ils n'ont pas le droit de pourrir la vie des gens. Et le deuxième point, c'est que le gouvernement adopte une nouvelle tactique de combat pour pouvoir lutter contre les grévistes, parce que de toute façon, les grévistes le feront jusqu'au bout. La RATP, la SNCF...
Et droit de grève à la carte ? Ah ben, comme en Italie, par exemple, où on ne peut pas faire grève pendant les fêtes de Noël.
Moi, je dis qu'il faut encadrer le droit de grève pour ne pas permettre, il ne faut pas que le droit de grève empiète sur la liberté des gens d'aller travailler, etc. Et le deuxième point essentiel, c'est qu'il faut que le gouvernement puisse pouvoir s'organiser pour pouvoir faire comme l'avaient fait certains gouvernements en Allemagne, au Royaume-Uni, lorsqu'ils avaient fait face à des réformes sociales très importantes, c'est-à-dire pouvoir recruter des gens en contractuel, parce qu'il y a quand même des gens qui cherchent des emplois actuellement. On fait face à des problèmes d'inflation, etc. Donc si par cas vous proposez à des gens d'intégrer ça et de pouvoir travailler dans certains endroits spécifiques comme la RATP et la SNCF de façon occasionnelle, notamment des jeunes, pour pousser au maximum et pouvoir de permettre que les services fonctionnent, et bien vous pouvez lutter contre ça. Et il y a un dernier point qui est intéressant, c'est que moi je pense qu'actuellement vous êtes à 32-68, comme l'a montré votre sondage, mais ce n'est pas exclu que les Français, même s'ils sont contre la réforme des retraites, à la fin soutiennent la réforme des retraites parce qu'ils en ont marre.
Contre les syndicats, parce qu'ils vont être impactés directement. Vous aurez le mot de la conclusion, Ludovine de la Rochère, et j'essaierai de vous céder la parole aussi, Pierre Lelouch, parce que le temps s'égrène. Mais pour corroborer ce qui a été dit, je vous fais écouter encore un extrait de l'interview ce matin sur CNews de Gabriel Attal, qui dénonce la politique de blocage, notamment de la NUPES.
Vous avez d'un côté le camp du blocage, effectivement, la France insoumise et ses alliés, socialistes, écologistes, qui vous disent effectivement « il faut rien faire et puis il faut tout bloquer ». De toute façon, ils veulent toujours tout bloquer. Ils étaient devant les raffineries pour bloquer les raffineries il y a quelques mois pour empêcher les Français d'avoir de l'essence. Il y a quelques années, quand il y avait eu la réforme de l'université, les députés se déplaçaient devant les centres d'examen pour empêcher les étudiants d'aller passer leurs examens. Là, ils veulent maintenant bloquer l'Assemblée nationale puisque la chef du parti écolo, du parti Les Verts, a dit qu'elle voulait transformer l'Assemblée en ZAD. La ZAD, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire le blocage permanent.
Blocage permanent. Mot de conclusion avec Pierre Louche et Ludovine de la Rochère en quelques secondes.
Après, moi je dirais simplement, il y a quelque chose qui s'appelle l'art de faire de la politique. Quand on est président de la République, on s'arrange pour ne pas tout détruire. Quand on a détruit les partis de droite et de gauche, on se retrouve avec des ultra-gauchos à l'Assemblée qui vous parlent de ZAD à l'Assemblée nationale. Quand vous avez ça, une opposition très très dure, sans précédent, que par ailleurs vous avez une crise énergétique qui se profile à l'horizon avec une guerre, vous ne mettez pas la retraite au milieu de ça en décalant.
Ludovic de la Rochère,
je rappelle
conclure.
Que Macron Ludovic. Décale la réforme de la retraite depuis 5 ans. Il l'a décalé avec le Covid, ça devait être voté avant l'hiver.
Ludovic de la Rochère, pour conclure.
je termine ma phrase.
Oui, mais il reste quelques secondes. Je vous avais dit quelques secondes. Eh bien, d'accord. Comme vous voulez, Pierre Lelouch. Je donne la parole à Ludovic de la Rochère. Pour essayer de faire court. Merci beaucoup.
William T. le sous-entendait, il y a une lutte pour, de la CGT pour son propre rôle des syndicats, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu tout leur pouvoir au moment des Gilets jaunes. Et là, pour eux, c'est l'occasion de le rattraper, ce qui dit que ce n'est pas pour l'intérêt général et ce n'est pas non plus pour les générations à venir qu'ils agissent.
On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Les débats sur CNews, à tout de suite. La troisième et dernière partie de 90 minutes Info Week-end, les thématiques dans quelques instants avec nos invités, William T. qui est avec nous, Pierre Lelouch, Ludovine de la Rochère et un point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
Les suites de l'agression de 7 personnes à la gare du Nord mercredi, le suspect devait être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de sa probable mise en examen, indiquait la procureure de la République de Paris. Les investigations auront notamment pour objet de préciser le déroulement exact des faits, comprendre les motivations du mis en cause et d'éclaircir sa personnalité. Soyons 1 million à déferler dans la rue, c'est l'appel de Fabien Roussel qui exhorte les Français à se mobiliser massivement ce jeudi contre la réforme des retraites. Dans le journal du dimanche, le patron du Parti communiste propose aussi de soumettre cette réforme à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. Au moins 67 personnes sur les 72 passagers à bord d'un avion qui s'est écrasé au centre du Népal sont morts. 15 ressortissants étrangers, dont un Français, étaient à bord de l'appareil de la compagnie Yeti Airlines. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies dans ce pays malayen.
Dans nos débats, cette question, la ville de Paris sera-t-elle prête pour les Jeux Olympiques le 26 juillet 2024, soit dans 559 jours, c'est demain. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a un avis tranché sur la question. On en parle avec nos invités dans quelques instants, mais d'abord explication de Kinson.
À 18 mois de l'échéance, la sécurité sera l'un des gros défis lors des Jeux Olympiques. Dans un rapport, la Cour des comptes pointe la sécurité et les transports comme les principaux risques opérationnels. Les magistrats pressent le comité d'organisation d'accélérer la signature de certains contrats, notamment avec la sécurité privée. Selon les projections, au moins 30% des menaces qui seront décelées en 2024 ne sont toujours pas connues. Et à ce jour, il manquerait près de 20 000 agents pour sécuriser les Jeux. Le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture, la Seine sera parcourue par des centaines de bateaux. 600 000 spectateurs seront massés sur les quais. 13 millions de touristes seront attendus pour l'événement. Mais la carte des transports en commun n'a pas résisté au retard des chantiers. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est exprimée dans Le Parisien.
Les métros du Grand Paris ont été lancés avec retard. Ils ne seront pas tous prêts à temps.
Les Parisiens seront d'ailleurs appelés à se prononcer sur l'interdiction des trottinettes en libre service dans la capitale le 2 avril prochain. Autre problème, Île-de-France Mobilité n'a pour l'instant trouvé aucun prestataire pour transporter les 200 000 personnes accréditées. On parle là des athlètes, des membres des fédérations, de la presse ou encore des organisateurs. Il s'agit là de créer un réseau de transport éphémère, à peu près aussi important que celui d'une ville comme Lyon.
Alors en effet, il y a la thématique de la sécurité, mais le dénominateur commun, ce sont les transports. Sur ce sujet, pour l'instant, il semble que nous ne soyons pas prêts, Pierre Lelouch. Et ça, c'est très inquiétant.
Je n'ai pas l'intention d'être là.
En 2024
Non, parce que je ne pourrais plus bouger.
C'est pas à Paris.
Je ne pourrais plus bouger de chez moi, ça m'embêterait beaucoup. Comment voulez-vous faire? Et là, elle a commencé à ouvrir le parapluie aujourd'hui. C'est la bonne méthode, Hidalgo.
Parlez de Michel, il a deux.
C'est pas moi. C'est l'État, c'est la région, métro pas prêt, s'il y a des problèmes à la RATP, c'est pas moi. Donc voilà, c'est pas elle. Donc puisque c'est pas elle, eh ben, advienne que pourra. Et on sait pas si la ville sera prête. Ce qui est quand même incroyable.
Ah ben c'est fou.
C'est juste incroyable. On est chez les Gaulois, donc personne ne se parle. Donc il y a la guéguerre entre la maire de Paris, la région. Maintenant, il paraît qu'elle parle au préfet de police. Elle aime bien Nunez, elle le dit d'ailleurs.
C'est ce que dit le préfet de Paris, en effet.
Voilà, oui. C'est la paix
pour préparer les Jeux
avec le préfet. Enfin, ça ne règle pas les problèmes de transport des Parisiens, des gens qui vont continuer à travailler, et puis des centaines de milliers de personnes qui vont se trouver dans la capitale. Donc, en ce qui me concerne, très modestement, je me taille. Je me casse, comme dirait...
Vous suivrez ça à la télévision quand même, Pierre.
Pardon ?
Vous suivrez ça à la télévision quand même. Même pas sûr.
Je suis même pas sûr. Je crois que je vais avoir beaucoup, beaucoup de problèmes à supporter ce, ce moment-là, vu la façon dont c'est préparé.
Évidemment qu'il y aura des centaines de milliers de personnes, même ne serait-ce que pour le premier jour des Jeux Olympiques, William T. Alors, ça pose des questions de sécurité, mais pour que ces personnes déambulent, se déplacent, viennent à Paris, puissent circuler tout autour, si en plus on a du retard sur tous les modes de locomotion, il n'y a pas que le
même
métro.
Ce sera pas
ça. Mais c'est dangereux. Moi, j'étais extrêmement pour et extrêmement enthousiaste à l'idée des JO 2024. Et on a eu une première bataille lors de la finale de la Ligue des Champions. Ça montrait quand même qu'en termes d'organisation d'événements sportifs, c'était quand même pas fameux. Ce qu'on dit, notamment sur la sécurisation du premier jour, c'est quasiment impossible à sécuriser autant de kilomètres. Il faudrait un effectif policier, des drones, etc., ce qui est interdit aussi. Et donc, c'est quasiment impossible de sécuriser le premier jour. Donc, on peut assister à une cata dès le premier jour. Et ce n'est pas uniquement la première des catas. Le problème que vous avez évoqué, c'est la question des transports. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible, à l'état actuel des choses, vu la formation des transports et vu du fait qu'on réduit le nombre d'offres de transports en Île-de-France, d'avoir un nombre de transports suffisant. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'il faut se dire qu'on a mobilisé tous les moyens du gouvernement, de la ville de Paris, de la région Île-de-France, pour montrer notre impuissance, notre saleté, le fait que la ville soit pas belle, etc. On a payé pour faire de la pub négative à l'égard du monde entier, parce que vraisemblablement, en 2 ans, c'est quasiment impossible d'organiser ça. Laurent Nunez est arrivé en 2022. Je m'en rappelle, il y a un intervenant qui vient ici souvent, qui est Christian Proto, qui dit que pour les JO d'Alfortville, il a été nommé 6 ans avant pour l'organiser et pour préparer la sécurité. Donc c'est quasiment impossible qu'avec les défis qui sont croissants, la montée de l'insécurité, la montée de l'ultraviolence,
que Laurent Nunez... Il a besoin de formation des gens.
Il a monté,
mais Nunez est un grand professionnel, mais il va avoir du mal.
Mais c'est juste qu'il me donne des missions qui sont impossibles. Il ne peut pas tout nettoyer en 2 ans. C'est quasiment impossible.
Quand vous voyez que la RATP aujourd'hui a un manque cruel de plusieurs centaines de conducteurs de train, de chauffeurs de bus... Que Castex, ancien Premier ministre, a les plus grandes difficultés à remettre la boutique en marche pour l'été prochain, donc à un an des événements. Cette affaire m'inquiète. M'inquiète au niveau des transports, tout bêtement, de la sécurité. On n'est pas le Qatar, je veux dire, c'est pas contrôlé à l'entrée. Là. Toute l'Europe arrive dans Paris. Donc il va y avoir des problèmes de maintien de l'ordre et de contrôle qui vont être considérables.
Et ce ne sont pas les trottinettes en libre-service ou à la location qui vont sauver la mise, puisque le choix d'Anne Hidalgo, c'est ce qu'elle explique dans l'interview du Parisien aujourd'hui, c'est de les supprimer. Enfin, elle va demander aux Parisiens de voter au mois d'avril, mais c'est de les supprimer. Ça risque d'engorger encore les autres moyens de transport. Oui, mais même si ces trottinettes peuvent provoquer du danger ou des nuisances, Ludovine de la Rochère.
Bien sûr, c'est-à-dire que c'est quand même, il faut parler un petit peu du bilan de Madame Hidalgo, qui est absolument désastreux. Il faut se rappeler que au tout début du mandat de Monsieur Delanoë, la ville de Paris était bénéficiaire. Elle était à 0 € d'endettement. Aujourd'hui, l'endettement de la ville de Paris est absolument considérable. Anne Hidalgo a fait des dépenses somptuaires dans certains domaines. Elle a fait des réaménagements absurdes, dont en général les budgets ont été beaucoup plus importants que ce qui était prévu. La durée a été bien plus importante. On voit des travaux partout dans la ville de Paris, derrière les palissades desquelles il n'y a rien. Et en termes de transport en commun, pour y revenir, et de transport, il y a une politique absolument délirante. Et notamment, il faut dire en plus qu'elle est... là-dessus, elle a les écologistes de sa majorité qui lui mettent une pression extrêmement forte et ils sont opposés au thermique et à l'électrique. Quant à Anne Hidalgo, elle est opposée aux voitures, mais elle est opposée aussi aux bus. Et donc, finalement, tout ça ne fonctionne absolument pas.
Pour marcher à pied, en fait, à Paris.
Alors, ce qu'elle veut, c'est à pied.
C'est l'idéal.
C'est à pied ou vélo.
Oui. Bon,
c'est-à-dire qu'il ne faut que des personnes en bonne santé, pas de famille, pas de personnes âgées, pas de malades, pas de personnes handicapées. J'ajoute que... toutes les erreurs qu'elle a pu faire, toute la saleté parisienne, ça lui est égal, ça n'a pas d'importance. Elle a connu un échec absolument incroyable à la présidentielle, mais elle poursuit indéfiniment. Et comme le disait Pierre Lelouch, là, dans la difficulté à venir, elle a voulu Paris 2024, elle a voulu les JO. Et maintenant,
elle y était opposée au début, puis ensuite, ça s'est transformé dans une volonté.
Elle nous a présenté une utopie, puis elle renvoie la responsabilité.
Réaction de Pierre Lelouch.
Juste, pardon de corriger Madame de la Rochère, mais. Monsieur Delanoë avait laissé 3,6 milliards d'euros de dette.
Je parlais du début de son mandat.
Multiplié par 2 par Madame Hidalgo. On est à plus de 7 milliards aujourd'hui. Donc Delanoë, ce qui est sûr, c'est que sous Chirac, il n'y avait pas de dette.
Je parlais début de son mandat, Pierre. Quand il a pris son mandat, il n'y avait pas de déficit.
Donc, on est d'accord,
oui,
au début, il n'y avait pas de dette. À la sortie de Delanoë, 3,6. Et maintenant, exactement. 7 milliards. Détail qui... à son importance.
Bien sûr.
Deuxièmement, pour une fois, je vais voter Hidalgo le 2 avril contre les
trottinettes. Ah, les trottinettes, d'accord.
Contre les trottinettes free-floating, c'est-à-dire qui appartiennent à des sociétés américaines dont l'impôt est payé aux États-Unis, je tiens à le dire quand même. C'est un des gros, gros scandales de cette mairie de gauche, c'est d'avoir avec le Airbnb toutes les sous-traitances aux boîtes Internet américaines, Uber, j'en passe et les meilleurs, les taxis, les réservations d'hôtels et le transport vélo et surtout trottinette, tout ça part dans le Delaware, l'état de Biden, pas un sou d'impôt n'est payé en France. C'est un scandale absolu.
Comme quoi vous êtes d'accord au moins une fois avec Annie Delgado. Alors,
donc là, elle se rend compte que son idée de flinguer les bagnoles pour faire des deux roues et des trottinettes n'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a énormément d'accidents et qu'avec les touristes, les gens qui sont à 2, 3, 4 sur les trottinettes, comme je le vois en permanence au centre de Paris, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Donc elle veut faire un référendum, pour une fois, elle va le gagner.
Ce sera
pour
le 2 avril.
Pour une fois, elle va gagner quelque chose. Vous verrez, ça va être un grand moment pour relancer sa campagne.
Ce qui est stupéfiant, elle a
Mais le mode de scrutin est très différent. Est-ce que ce sont vraiment les Parisiens, la population qui décident ?
Elle n'a jamais été élue sur son nom, même pas dans le 15e, n'est-ce pas ?
Jamais. Alors, je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour l'actualité à l'étranger et le Haut-Karabakh. Et je vais avoir besoin de vous, Pierre Lelouch, parce que vous connaissez très très bien ce pays, cette république en tout cas. Juste une question pour terminer sur Anne Hidalgo, parce que c'est un débat qui, à mon avis, va faire des vagues sur la vente du Parc des Princes, qui appartient aujourd'hui à la ville de Paris, mais dans lequel le Paris Saint-Germain, club qui lui appartient à des Qataris, joue, évidemment. Et Anne Hidalgo, c'est une vraie polémique, refuse de le vendre alors que les Qataris veulent l'acheter. Tout simplement pour développer le club et son activité. Votre point de vue, vous qui êtes à la fois fan de foot, mais abonné au Parc des Princes. Donc, non, mais ça voudrait dire que vous, supporter William T, vous seriez obligé de quitter le Parc des Princes pour supporter le PSG.
Ça me ferait mal
au cœur. Qui est le stade emblématique du PSG.
Ça me ferait mal au cœur d'aller au Stade de France.
Ou ailleurs.
Ou ailleurs. Non, je pense que sur ce sujet.
Ils ne peuvent pas l'acheter, le Stade de France.
Non, ils ne peuvent pas l'acheter, mais ils peuvent le louer. Ils peuvent le louer, ils peuvent faire un
contrat. Oui, ils peuvent construire un stade à Poissy, notamment, où ils seront installés pour leur centre d'entraînement, ou ailleurs, bien sûr.
On perd notre lieu historique. Moi, je pense que sur ce sujet, ça démontre aussi l'incompétence d'Anne Hidalgo. Il faut être raisonnable vis-à-vis d'Anne Hidalgo. C'est le Paris Saint-Germain qui fait les investissements en termes d'infrastructures sur tout l'aménagement du Parc des Princes depuis l'arrivée des Qataris. Ils ont investi 80 ou 100 millions d'euros. Anne Hidalgo a besoin d'argent de toute façon parce que la mairie de Paris est en déficit. À quoi ça lui sert de conserver le Parc des Princes en termes d'infrastructures et en termes de patrimoine dans la mesure où elle ne peut pas le valoriser dans les années à venir sans investissement supplémentaire du Qatar. Donc elle a tout intérêt à le vendre pour pouvoir réduire sa dette et pouvoir investir dessus. Moi je pense qu'il y a un sujet à aborder, je mettrai le sujet comme ça. Je me demande si, à terme, il y a deux sujets à réfléchir. Mmh. Est-ce que soit il ne faut pas supprimer la loi PLM, donc la loi électorale sur Paris-Lyon-Marseille, soit deuxième possibilité que je soumets, est-ce qu'il ne faut pas mettre Anne Hidalgo sous tutelle et supprimer le poste de maire de Paris, parce qu'on a déjà eu pendant très longtemps pas de maire de Paris.
On n'y est pas encore. L'actualité internationale, maintenant, on reparlera sans doute de ce sujet brûlant. L'actualité internationale avec le Haut-Karabakh, c'est une république autoproclamée en sécession avec l'Azerbaïdjan, où depuis Enfin, c'est pas si en sécession avec l'Azerbaïdjan ?
Non, c'est plus compliqué que ça. Mais allez-y, pardon. Je vous
Très bien. Compliqué. Où depuis un mois, donc, des activistes azerbaïdjanais bloquent la seule route reliant cette région enclavée à l'Arménie, puisqu'il y a une forte population arménienne et ils sont coupés donc de l'Arménie, population coupée du monde, et en appel à l'aide internationale. Les détails avec Solène Boulan.
À Stepanakert, capitale autoproclamée du Haut-Karabakh, les stations-service sont à sec. À l'image des magasins, dont la plupart des rayons ont eux aussi été vidés. Car depuis le 12 décembre, des individus qui se présentent comme des activistes azerbaïdjanais bloquent le corridor de Latchin, seul axe qui relie le Haut-Karabakh et l'Arménie à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ces militants indiquent lutter contre l'exploitation illégale de minerais par l'Arménie dans la région, mais le blocage de la route empêche le ravitaillement de cette enclave. Les conséquences humanitaires et sanitaires sont dramatiques pour ce territoire azerbaïdjanais où vivent plus de 120 000 Arméniens.
Les gens meurent psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture ni de fruits. Est-ce vraiment le 21e siècle ?
Nous nous trouvons dans une situation très difficile pendant le blocus, surtout depuis que les lignes électriques ont été coupées. Il fait froid, nous avons des enfants en bas âge, j'ai un petit-fils d'un mois et nous sommes en très mauvaise posture.
Pour faire face, les autorités tentent de rationner les vivres, notamment l'énergie, avec des coupures d'urgence. Plusieurs quartiers restent alors sans électricité pendant plusieurs heures, comme cet hôpital pour enfants. Officiellement, l'Azerbaïdjan nie tout blocage, tandis que l'Arménie accuse le pays d'être à l'origine d'une crise humanitaire.
Et le blocus a commencé il y a un mois, le 12 décembre dernier. Ça représente 120 000 personnes. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une crise humanitaire,
Pierre Lelouch? Cette crise, malheureusement, elle dure depuis au moins 30 ans. Moi, j'ai vu des hôpitaux.
Vous êtes allé là-bas?
Ah, oui. J'ai même ouvert avec, grâce à Chirac, d'ailleurs, la première ambassade d'Arménie en France et de France en Arménie. J'ai même emmené un convoi humanitaire à l'époque, il y a plus de 30 ans, au moment de l'indépendance de l'Arménie. Et il y avait la même chose, c'est-à-dire des salles d'hôpital avec des bébés qui venaient de naître où il faisait zéro degré. Ça m'a marqué, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est triste, c'est qu'on revoit les mêmes scènes aujourd'hui dans le Karabakh. Alors de quoi on parle, en fait? C'est compliqué, c'est le résultat du charcutage opéré par Staline au moment où il a pris le contrôle de ce Caucase, où il a découpé des bouts et les a mis dans la République d'à côté. Donc on a pris un bout d'Arménie, qui est le Karabakh, qu'on a mis du côté azerbaïdjanais, et de l'autre côté, on a pris un morceau de Turquie, d'Azerbaïdjan, on l'a planté dans la République d'Arménie. Et tout ça était à l'intérieur de l'Union soviétique et tenu par l'armée rouge, donc ça ne donnait pas grand-chose en termes de violence. Mais depuis 30 ans, c'est la guerre. C'est la guerre à plusieurs reprises entre les Arméniens et les Turcs. Il faut savoir que les Arméniens, ils ont subi le premier génocide du XXe siècle en 1915. La communauté que nous avons en France, elle est issue de ce génocide de 1915.
Et le Haut-Karabakh se considère comme arménien?
Bien sûr.
Mais je le précise pour celles et ceux qui nous écoutent.
Mais bien sûr. Là, l'Azerbaïdjan, le danger, c'est que, profitant de l'affaiblissement de la Russie en Ukraine en ce moment, c'est eux qui tenaient la sécurité de la situation. Les Turcs en profitent pour régler leur compte une bonne fois aux Arméniens et éliminer la présence chrétienne dans cette région. C'est ça qui se joue.
Qu'il y a des sites miniers aussi, Pierre Lelouch?
Non, surtout non, malheureusement, l'Arménie est un pays très pauvre, qui n'est pas mis en valeur du tout. L'argent, il est de l'autre côté, du côté des Turcs et des Azéris. En Azerbaïdjan, vous avez une énorme quantité de pétrole et de gaz. C'est le Koweït de l'endroit, si vous voulez. Et donc là, les Turcs, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils sont en train d'essayer de vendre aux Américains l'idée de mettre un gazoduc qui emmènerait du gaz azéri en direction de la Turquie et de l'Europe, et donc rendrait possible de violer le territoire arménien en créant ce corridor au sud. Et en même temps, ils font pression sur cette petite population du Karabakh qui est complètement encerclée. Moi, j'ai très peur pour ces chrétiens d'Orient. Je rappelle quand même que c'est le berceau de la présence chrétienne. On a les plus vieilles. Moi, vous savez, je suis allé en Arménie, j'ai vu les églises arméniennes. C'est très, très émouvant. Ce sont des églises qui ont bien souvent 15 siècles. Qui sont très anciennes et qui sont très belles. Et cette présence, elle est vraiment menacée.
Il est important d'en parler.
Systématiquement détruite par les Ottomans.
Il est important d'en parler puisque, à part CNews, rares sont ceux qui parlent du Haut-Karabakh. Oui, en effet,
un dernier mot, si vous m'autorisez.
En quelques secondes.
Les médias sont obsédés par l'Ukraine. Dieu sait que c'est important, l'Ukraine. Mais en ce moment, sur la planète, il y a 10 ou 15 conflits majeurs qui se produisent. Mais là où il n'y a pas de caméra, là où il n'y a pas d'engouement des médias, personne n'en parle. Et les gens meurent en silence, tandis qu'on va répéter chaque bulletin ce qui se passe en Ukraine et qui concentre la totalité de l'aide occidentale va dans un seul pays et pas du tout à ce qui se passe en Éthiopie ou Kivu, etc.
Merci à Pierre Lelouch, merci à Ludovine de la Rochère et merci à William T. Dans un instant, Punchline avec Elliot Deval. Vous restez sur CNews et on se retrouve sur CNews.fr. Bon dimanche.